Avec Léa Salamé, nous recevons maintenant le délégué général du Parti La République En Marche, Stanislas Guérini. Bonjour.
Bonjour.
Quel type de soirée avez-vous passé hier? Rude, mauvaise, prévisible et est-ce la gueule de bois ce matin pour La République En Marche?
C'était pas une bonne soirée. Pour nous, les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Moi, j'ai des déceptions. On aurait aimé davantage bouger les lignes à l'échelle municipale dans cette élection. Et donc, il faut savoir dire les choses. Quand on vit des victoires électorales ou des soirées qui sont pas des victoires, bah, je peux pas la classer dans les victoires électorales, évidemment. Ce que je vois, c'est que on aura quand même, dans cette élection municipale, fait un pas dans l'implantation. Moi, je dirige un jeune mouvement qui a donné un président de la République, évidemment, mais qui a tout à faire à l'échelle locale, qui doit continuer son travail. Demain, à l'issue de cette élection, on aura des centaines de maires qui seront des adhérents de La République En Marche. C'est un pas pour un parti qui partait de zéro, mais objectivement, on aurait voulu que ça se fasse plus vite, plus fort. Et puis c'est une élection, bien sûr, on en reparlera peut-être, mais quand même, où l'abstention doit nous interroger. Elle est un des faits politiques. Elle dit des choses sur le pays, elle dit des choses sur la préoccupation des Français.
L'abstention historique, qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle dit pour vous spécialement? Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron avait promis de faire de la politique autrement, de réconcilier les Français avec la politique, de mettre un peu fin à cette crise démocratique. On voit 3 ans après que ce n'est pas le cas. Et puis comment vous expliquez que vos électeurs ne se soient pas déplacés pour aller voter? Ils sont restés chez eux hier. Dans les abstentions, il y a beaucoup de gens en marche qui ne sont pas allés. Est-ce que vous y voyez une sanction aussi?
Je pense que moi, je vois qu'il y a deux sujets derrière. Il y a un sujet très profond, structurel, qui est la défiance dans la vie politique. Et ce défi-là, il reste entièrement devant nous. On l'a objectivement pas résolu aujourd'hui, pas relevé. Et il va falloir continuer à s'y atteler, à recréer de la confiance à travers aussi des nouveaux outils citoyens. Je pense à la Convention citoyenne pour le climat. Il faut qu'on travaille cette matière démocratique qui est bien fatiguée. Et puis il y a une autre raison, je crois que tous les candidats ont perçu dans cette élection municipale en allant sur les marchés, c'est que les Français avaient déjà un peu la tête à autre chose. Objectivement, après le confinement, peut-être un peu la tête aux vacances pour certains, et beaucoup des préoccupations très concrètes sur leur emploi, sur leur entreprise, comment va se passer la rentrée. Il y a une crise économique et sociale de grande ampleur qui est devant nous. Je crois que les gens avaient un peu plus la tête à ça qu'aux élections municipales. Donc il faut aussi voir ce scrutin tel qu'il est, c'est-à-dire un scrutin local, mais avec les Français qui avaient des préoccupations nationales en tête.
Vous avez répété inlassablement dans les derniers jours, Stanislas Guérini, on aura 10 000 conseillers municipaux. On rappelle que 10 000 conseillers...
Je le dis depuis des mois d'ailleurs.
Ouais, vous les avez ou pas?
C'est difficile à vous dire ce matin, les prochains jours me permettront de vous répondre.
Mais ce n'est pas sûr que vous les ayez.
Je pense qu'on les atteindra de ce que je voyais des résultats du premier tour. Vous savez, il y avait déjà plus de 400 maires, La République En Marche, adhérents, qui était élu au lendemain du premier tour de l'élection municipale dans toutes les villes de France. Donc cette implantation locale qui est moins médiatique que d'avoir gagné telle ou telle grande ville.
Enfin, qui n'est que 2%, pardon, sauf mon respect, 10 000 conseillers municipaux, c'est votre objectif 3 ans après votre victoire immense à la présidentielle et aux législatives, 10 000 conseillers municipaux sur 560 000, c'est-à-dire 2%, c'était pas un objectif, on va dire, brillant.
Deux choses là-dessus. D'abord, je pense qu'on gagne toujours un peu d'humilité. On nous a suffisamment reproché parfois d'arrogance, d'être trop sûr de nous. Bon, voilà, un scrutin municipal où les résultats n'ont pas été bons et on doit apprendre et grandir de cela. Après, c'est un chiffre que j'ai toujours appelé à relativiser parce qu'en réalité, l'immense majorité des élus municipaux, ils le sont sans étiquette aucune. Et donc, comparé par rapport aux 500 000, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je crois que c'est pas ça qui intéresse nos auditeurs.
Stanislas Guérini, la vague verte est à la une de toute la presse ce matin. Sur l'écologie, vous avez un bilan. Certains diront qu'il est insuffisant, mais il existe. Notre-Dame-des-Landes, Europa City, la loi sur le plastique, la montagne d'or en Guyane, j'arrête là. Pourquoi les Français...
Vous pouvez ajouter les centrales à charbon, la sortie des hydrocarbures.
Voilà. Mais la Convention citoyenne.
La Convention citoyenne, 50% d'alimentation bio et de circuit court. Voilà. Mais j'attends votre mèche, je suis d'accord avec vous.
Mais pourquoi les Français ne vous créditent pas de cela? Qu'est-ce que vous avez raté?
Je crois que la crise de la politique en France, on en parlait, c'est une crise de l'efficacité politique, de la vie quotidienne. Il faut que nous soyons en capacité à changer davantage la vie quotidienne de nos concitoyens. Je crois que la Convention citoyenne pour le climat, elle est intéressante là-dessus, parce qu'elle s'est interrogée sur des questions qui touchent notre vie quotidienne. Vous savez, on sort d'une crise qui est absolument inédite parce qu'elle a modifié et bouleversé d'un coup d'un seul notre quotidien. Et je crois qu'il faut repartir de ça. Tout discours trop théorique en milliards d'euros, il ne sera pas entendu. Mmh. Il faut maintenant qu'on arrive à obtenir des résultats plus concrets. Moi, je suis frappé d'une chose. On vote à l'Assemblée nationale des budgets où on met plus d'argent, objectivement, qu'on en avait mis dans les précédents quinquennats, par exemple sur la rénovation des bâtiments. Mais on achoppe toujours quand il s'agit d'arriver à rénover le gymnase à côté de chez soi.
Ça n'est que ça, c'est, selon vous. C'est trop abstrait, pas assez concret.
En tout cas, ça fait partie des sujets. Moi, je sors d'une campagne où j'ai beaucoup échangé. Et nos concitoyens, quand ils parlent de l'écologie, ils n'en parlent pas de façon abstraite. Ils en parlent dans leur vie quotidienne. Et il faut, puisque, effectivement, il y a cette volonté à faire la transition écologique qui ressort de ce scrutin municipal, il faut que nous arrivions à montrer que l'écologie qu'on porte, c'est une écologie qui n'est pas anti-science, pas anti-vaccin, pas anti-5G, mais qui est une écologie qui arrive à ne pas opposer les Français les uns aux autres. Et trop souvent, il y a ces discours-là. Moi, je veux qu'on trouve des solutions. Pas pour dire d'un côté, il y a les Français qui ont une voiture et ceux qui peuvent circuler à vélo. Non, comment on fait la transition pour avoir des mobilités plus douces? C'est ce type de questions qu'il faut apporter des réponses.
N'est-ce pas aussi, Stanislas Guérini, l'échec de votre stratégie d'alliance avec la droite dans plusieurs villes pour faire barrage aux écolos, comme à Bordeaux, Lyon, Strasbourg? Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Et aussi, est-ce que ça ne va pas laisser une trace dans l'esprit des Français, cette alliance que Daniel Cohn-Bendit, qui est pourtant proche de vous, alliance qu'il a jugée bête, inutile et contre-productive?
Je vous arrête là-dessus. Parce que j'ai jamais fait de front anti-écolo. Tout ça, honnêtement, ce sont
vous auriez pu ne pas vous allier à la droite.
Foutaises. Ce sont des foutaises.
Mais vous auriez pu ne pas vous allier à la droite face au candidat écolo. Il y a des villes où vous ne vous êtes pas. Vous êtes sorti.
Très précisément. J'assume, dans cette élection municipale, d'avoir voulu continuer à faire le dépassement des clivages. Et donc, plutôt que de partir toujours sous la seule étiquette de La République En Marche, d'avoir effectivement bossé avec des maires. Et d'ailleurs, je suis très satisfait que des maires venant de la gauche, je pense à Dunkerque, à Waterloo, à Clichy, à Rodez, ou venant de la droite, à Angers, à Amiens ou dans d'autres villes, on les aura aidés à regagner et il y aura des marcheurs dans leurs équipes municipales. Ça, j'assume. Mais de réduire la stratégie d'alliance que nous avons faite à une stratégie uniquement d'alliance avec LR, alors même, vous le rappelez Léa Salamé, que pour certaines villes, j'ai retiré des investitures. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Clermont, où je n'ai pas approuvé ces schémas d'alliance. Mais alors ça, je pense qu'il ne faut pas caricaturer ce qu'on a fait. Le dépassement, oui, mais ça n'est pas l'effacement de nos convictions et notre idéologie.
A contrario, je ne sais pas si vous avez lu l'édito très intéressant d'Alexis Brézet ce matin dans le Figaro. Il vous dit...
Je me suis couché trop tard, je me suis levé trop tôt.
Je vais me permettre de vous le résumer, mais c'est intéressant. C'est le contraire de ce que dit Daniel Cohn-Bendit. En gros, il vous dit, face au pôle écologiste et de gauche qui sort requinqué, durablement requinqué de ces élections, Emmanuel Macron n'a plus le choix. Il faut qu'il choisisse son camp et qu'il assume d'être le candidat de la droite et du centre s'il veut une base électorale en 2022. Et pour consolider cette électorat de droite, on voit mal pourquoi il devrait renvoyer, je cite, Édouard Philippe à ses foyers.
Mais
qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vous disent, allez, maintenant c'est clair, clarifiez les choses, vous êtes à droite?
Moi, je ne me résoudrais pas à retomber dans ces clivages-là. Je crois qu'il y a une aspiration à faire la transition écologique qui est évidente, qui est multi, qui dépasse toutes les générations et tous les clivages politiques. Mais simplement, il faut le faire sans se renier. Je crois que ça serait une erreur fatale à ma formation politique, ou même au pays, de tourner le dos à une politique de soutien aux entreprises, par exemple. Les entreprises, j'en suis convaincu, elles font partie de la solution. Maintenant, il faut qu'on les accompagne plus rapidement dans leur transformation. Je crois qu'il faut qu'on installe, effectivement, ce « en même temps-là », qui est se libérer, auquel il ne faut pas tourner le dos, se protéger, sur lequel il faut accélérer. Il y a un besoin de protection qui est inédit, qui a jamais été aussi fort dans le pays. Il se manifeste à la fois dans sa dimension sociale, les gens ont peur pour leur emploi, les gens ont peur que les chaînes dans les fils alimentaires augmentent, et aussi, évidemment, une dimension de protection pour la santé environnementale, une dimension de protection pour nos enfants. Eh bien, c'est surtout ça qu'il faut accélérer, mais ça ne serait pas de prendre un virage qui serait un reniement. Je crois qu'il faut savoir, comme l'a dit le président de la République, se réinventer, mais sans se renier.
Le seul moment de la soirée où j'imagine vous avez dû sourire, Stanislas Guérini, c'est la victoire d'Édouard Philippe au Havre. Question simple ce matin, pouvez-vous faire sans lui à Matignon dans les deux prochaines années?
D'abord, je vous confirme que j'ai souri, c'est une bonne nouvelle évidemment, pour le Havre d'abord et pour la majorité présidentielle évidemment. Ça monte d'ailleurs quand on parle de vote sanction ou quoi, qu'objectivement beaucoup de ministres qui se sont présentés ont plutôt bien regagné, donc ça doit nous faire relativiser un petit peu les choses sur cette dimension-là. Je crois que c'est plutôt une chance d'avoir un Premier ministre qui soit fidèle, loyal, compétent. Ça a été une chance depuis le début du quinquennat. C'est le président de la République qui décidera comment il veut continuer les choses.
Mais vous dites que c'est une chance,
comme un problème. Et surtout, je ne vois pas comme le sujet principal de dire qu'elle doit être au fond le
casting. On ne dit pas que c'est le sujet principal, c'est la dernière question, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Après la soirée d'hier soir, peut-il se passer d'Édouard Philippe?
C'est le président de la République qui devra y répondre et pas le chef du parti majoritaire.
Merci, monsieur le délégué général du parti La République En Marche. Ça veut dire chef, effectivement, on le dit à chaque fois. Stanislas Guérini, merci d'avoir été au micro d'Inter pour boucler ce 7-9 spécial consacré aux résultats des élections municipales. Notre dernier invité, le directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, le CECOP, et chercheur associé au CEVIPOF. Jérôme Jaffray, bonjour.
Bonjour.
Le sondeur aguerri que vous êtes, l'analyste très fin de la politique, qui en a vu tellement d'autres, a-t-il été surpris par la soirée électorale d'hier ?
Oh, c'est une soirée un peu spéciale. C'est une journée même spéciale, c'est-à-dire tous ces électeurs, ces personnalités qui allaient voter avec le masque, mis sur le masque, ce sera le souvenir dominant de cette journée, de ces élections municipales.
Quand ils allaient voter ?
Quand ils allaient voter, parce que beaucoup, du coup, ne sont pas allés voter, en partie pour cela, et en partie aussi parce que le second tour était tellement éloigné du premier qu'on perdait ses repères. Et puis, il y a eu la vague, effectivement, dont vous parlez depuis ce matin, dont vous parlez depuis hier soir, la vague verte, qui a déferlé sur les grandes villes, mais uniquement sur les grandes villes. Et il faut regarder cela de plus près.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si vous considérez qu'il y a à peu près 260 villes de plus de 30 000 habitants, il est important de préciser ce matin pour nos auditeurs que les écologistes à peu près en compteront une quinzaine à l'issue de ces élections. Alors avant, ils n'en avaient que 4. C'est une performance. Mais ce sont des prises de choix. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle ville qui tombe. Quand Lyon tombe, quand Marseille tombe, c'est pas une écologiste ELV, mais c'est quand même une écologiste. Quand Strasbourg tombe,
quand
Besançon
Bordeaux
tombe, Tours tombe, Bordeaux tombe. Bordeaux, la ville de Jacques Chaban-Delmas et d'Alain Juppé, qui vote à 56% à gauche, si vous totalisez les voix Poutou qui s'étaient maintenues, et Urmic, 56%
ça,
des Bordelais.
Est-ce que Bordeaux vous a stupéfait?
Oui,
Stanislas
Bordeaux
Guérini nous disait, ma grande surprise, c'est Bordeaux.
Bordeaux était stupéfiant, bien entendu, parce que, et ça nous donne un autre message, c'est que la coalition qui s'était formée entre Nicolas Florian et le candidat d'En Marche, Cazenave, n'a pas fonctionné. Et dans la plupart des villes où ce type d'entente a été établi, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que pour les électeurs, c'était un peu contre nature. C'est l'exemple aussi de Strasbourg, assez stupéfiant, où l'ancien secrétaire national aux élections du Parti Socialiste, Alain Fontanel, s'est allié avec les Républicains in extremis pour barrer la route aux écologistes. Ça n'a pas marché. Les électeurs strasbourgeois ont considéré que c'était l'alliance de la carpe et du lapin.
Jérôme Jaffray, vous l'avez dit, attention à la manière dont on décrit cette vague verte. Elle existe, mais, et vous avez fait l'ensemble des précautions intellectuelles à prendre, cette vague verte, une fois qu'on a dit ça, vous semble-t-elle durable ?
Alors, l'une des choses, c'est qu'elle reconfigure la gauche française. L'une des choses marquantes de ces élections, c'est que les écologistes, ELV, s'est inscrit totalement dans la gauche. Contre la position de Yannick Jadot, il y a un an, aux élections européennes, qui ne voulait même pas employer le mot gauche, qui considérait qu'il fallait que l'écologie s'ouvre assez largement vers une partie du centre, éventuellement. Là, les écologistes se sont complètement installés au sein de la gauche. Et le problème, c'est, vont-ils être capables de prendre le leadership de cette gauche française ? Ça n'est pas évident, je dirais. Alors, pour les régionales, si elles ont bien lieu l'année prochaine, c'est un schéma qui peut parfaitement fonctionner. Parce qu'il y a un avantage inouï dans ce type d'élection, c'est que la fusion est possible entre les deux tours. Donc vous pouvez partager les postes, vous pouvez vous allier. Il y a d'autres élections où vous ne pouvez pas partager les postes. Il faut bien décider qu'il y a un leader. Est-ce que les écologistes, jusqu'à présent, les écologistes se sont toujours heurtés au mur de la présidentielle? C'est-à-dire, la présidentielle suppose une crédibilité internationale, une crédibilité économique, pas seulement le problème environnemental et le problème de la transition écologique.
Ils ont fini par céder et à se ranger derrière le candidat socialiste. Encore sur la dernière présidentielle, Yannick Jadot s'est retiré et a soutenu Benoît Hamon.
Alors, c'est beaucoup moins probable pour la présidentielle suivante. Je dirais que là, nous avons celle de 2022. Il n'est pas évident que les écologistes renoncent facilement à avoir un candidat. Ça ne va pas être facile non plus pour eux de sélectionner ce candidat. Selon quelle procédure? Il y a 8000 militants chez les écologistes, point final. Est-ce qu'on va faire une primaire? Voyez, est-ce que les socialistes vont accepter de se retirer
pour la... qu'est-ce qu'il leur manque, Jérôme Jaffré? Quand on regarde, ça fait quand même deux victoires d'affilée, les européennes et les municipales, et leur leader qui n'arrive pas à s'imposer. Qu'est-ce qui manque à Yannick Jadot?
Alors, n'exagérons pas quand même. Il y a des progrès écologistes, ils sont manifestes, ils sont évidents. Mais vous savez, la présidentielle suppose l'unité, il faudrait que la gauche soit unie. Dès hier soir, par exemple, sur LCI, Jean-Luc Mélenchon disait il y aura très probablement un candidat insoumis, un candidat écologiste au premier tour de la prochaine présidentielle. Si la gauche ne fait pas l'unité, elle aura du mal à être dans les deux premiers. Il faut incarner le renouvellement. Là, les écologistes sont formidables. Il faut avoir de la crédibilité sur les grands sujets. Et je disais là-dessus, il y a un problème écologiste. Alors du coup, les municipales étaient parfaites. C'est la démocratie de proximité, c'est l'écologie dans la ville, c'est le problème de la canicule que nous avons subi l'été dernier qui fait que les villes, on a senti qu'elles devenaient insupportable à vivre. Donc on veut changer la ville, mais c'est difficile. Et puis il faut l'incarnation, c'est-à-dire à un moment pour la présidentielle, c'est quelqu'un que vous vous représentez dans la fonction présidentielle. Or les écologistes, ils sont très hostiles fondamentalement aux institutions de la Ve République, c'est-à-dire cette monarchie citoyenne que nous avons avec la Ve République, c'est pas la tasse de thé des écologistes. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail là-dessus.
Regardons, Jérôme Jaffré, d'autres segments du paysage politique. Le PS et les Républicains conservent leur fief à deux énormes exceptions près pour la droite, Marseille et Bordeaux. Le PS peut...
Et Perpignan.
Et Perpignan, oui, effectivement. Le PS peut même se targuer d'avoir remporté Montpellier, Nancy, Saint-Denis. L'ancien monde n'est donc pas encore totalement mort?
Alors, vous avez raison, il y a une déconnexion, je dirais, entre la démocratie territoriale de proximité que représentent les municipales et la démocratie gouvernante. Il y a eu un sondage récemment, il a été fait par l'IFOP sur l'élection présidentielle. Alors, il faut bien sûr le prendre avec prudence, ça n'a pas de sens, peut-on dire. Sauf que ça nous donne une idée du paysage politique. Et arrivait très très largement en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au coude à coude au premier tour. Et nous avions des candidats de gauche, alors... il y en avait plusieurs, Mélenchon, Olivier Faure qui était testé, Yannick Jadot, mais aucun ne perçait, aucun n'existait. Quant aux candidats des Républicains, qu'il s'agisse de Bertrand ou de Baroin, ça n'est pas n'importe qui, 12% seulement d'intention de vote. En d'autres termes, ces partis qui continuent d'occuper le terrain localement assez fortement, vous avez raison, les Républicains restent la force dominante à ces municipales dans les villes, c'est incontestable,
ils n'arrivent pas avec le PS.
Devant le PS, oui. Je dirais même. Le PS est un peu moins puissant, même s'il a repris effectivement un certain nombre de villes. Il avait subi une telle défaite en 2014 qu'il y a aussi un retour du balancier.
Anne Hidalgo remporte une victoire claire et nette à Paris. Comment voyez-vous son avenir, Jérôme Jaffré? Peut-il être national?
Alors, elle a déclaré qu'en aucun cas elle ne serait candidate à la présidentielle de 2022, mais tout observateur légèrement attentif aura noté que samedi, Jean-Louis Missika, son adjoint fidèle qui ne s'était pas représenté, a annoncé que Paris en commun, son outil politique, allait continuer au-delà des municipales, c'est-à-dire qu'elle se donne les moyens d'un outil politique pour exister au plan national. Bref, Anne Hidalgo ne souhaite en aucun cas être candidate à l'élection présidentielle, mais si tout le monde lui demande à gauche que fera-t-elle.
Passons maintenant à La République En Marche. Comment vous analysez la débâcle d'hier soir de La République En Marche? Est-ce l'incapacité ou la difficulté de s'implanter localement pour un parti jeune, comme ils essayent de le dire, comme Stanislas Guérini l'expliquait, ou est-ce un vote sanction contre Emmanuel Macron?
Il y a des deux, bien entendu, incontestablement. Mais c'est la situation, si vous voulez, où La République En Marche a été prise en tenaille. En tenaille entre la gauche constituée en bloc, unifiée, et une droite localement puissante. Et c'est par ailleurs le coup politique, COU accent circonflexe T, le coup politique d'une stratégie illisible et d'un abandon des fondamentaux. Le fondamental d'En Marche et de Macron, c'était de dire « et de gauche et de droite ». À partir du moment où vous n'êtes plus « et de gauche et de droite », vous n'avez plus les moyens politiques d'être « et de gauche et de droite », vous subissez quelque chose de très sévère. Alors,
il n'était plus « et de gauche et de droite », c'est ce que vous dites.
C'est clair que
il était « et de droite et de droite ».
Voilà, pour les gens, voilà ce que disait François Mitterrand du centre, et le centre « et de droite et de droite » s'applique maintenant à En Marche, incontestablement. Et avec le problème aussi que du coup, pour beaucoup d'électeurs, c'est une incompréhension. Paris, qui avait voté Macron à fond, quand on regarde les sondages de près, beaucoup de ces électeurs, Macron, de la présidentielle, sont allés vers les listes Hidalgo. Quant à Agnès Buzyn, c'est un cauchemar, son résultat. C'est-à-dire que après la mascarade du premier tour, c'est le cauchemar du second. Elle n'est même pas conseillère de Paris. Elle n'a même pas obtenu de siège de conseillère de Paris dans le 17e arrondissement.
La politique peut être cruelle parfois.
Très cruelle.
Comment il peut reprendre la main, Emmanuel Macron? Si je vous écoute, est-ce qu'il doit assumer ce qu'il est en train d'être, si je vous écoute, c'est-à-dire de droite et de droite, assumer d'être le candidat de la droite et du centre, ou est-ce qu'il doit gauchir, verdir, revenir au « et » en même temps?
Évidemment, il faut qu'il ait une façon assez subtile de présenter les choses. Une de ses grandes questions, c'est la politique écologique. Politique écologique, au fond, on a fait la courte échelle aux écologistes dans ces élections municipales. Sortir les conclusions de la Convention citoyenne à une semaine du premier tour du second tour des municipales, c'était un service rendu aux écologistes assez impressionnant, dont on a vu les effets directs clairs. Il faut donc, pour lui, présenter une politique écologique qui soit différente de celle que veulent faire Europe Écologie Les Verts au plan national. C'est-à-dire une politique écologique qui puisse être une politique écologique de progrès, face à une politique écologique qui serait celle de la décroissance. C'est capital par rapport aux catégories populaires, par exemple. Les catégories populaires, elles se sont massivement abstenues dans ces élections hier. Et quand les catégories populaires s'abstiennent massivement, dans les grandes villes, ça produit effectivement des résultats qui parfois déstabilisent la gauche, au profit des écologistes. Martine Aubry s'en sort miraculeusement à Lille, et à Poitiers, Alain Claisse, un des barons du Parti Socialiste, est sévèrement défait. Donc il y a cette dimension-là. L'autre dimension, me semble-t-il, pour Emmanuel Macron, c'est effectivement de mener une politique qui rassure un certain nombre d'électeurs et qui consiste non pas à se coaliser avec la droite, mais à aspirer les électeurs de droite idéologiquement. Si vous vous coalisez avec la droite, on a vu les résultats à Clermont-Ferrand, à Bourges, à Bordeaux, à Strasbourg, c'est complètement raté. Il faut aspirer idéologiquement une partie de la droite, c'est possible sur les thèmes économiques en particulier et régaliens, c'est probablement ce qu'il fera.
Résultat en demi-teinte, on va finir par le Rassemblement National, pas de vague RN, mais une victoire symbolique de Louis Alliot dans la ville de Perpignan. Louis Alliot qui a déclaré hier « Le Front Républicain est tombé aujourd'hui à Perpignan, il pourra tomber demain ailleurs ». Fin de citation. A-t-il raison, Jérôme Jaffray ?
La question peut se poser. Louis Alliot, c'était la troisième fois qu'il se présentait. Il a fini par gagner. Marine Le Pen, à la prochaine présidentielle, ce sera sa troisième candidature. Donc, il y a un peu cette idée. Cela dit, j'observe que Louis Alliot, il a mis complètement de côté l'étiquette Rassemblement National. Il n'a fait venir aucun leader. Et il a joué la notabilisation et la fusion avec un électorat de droite. Moi, ce que je retiens de ces municipales pour le RN, c'est quand même globalement un échec hors Perpignan. C'est-à-dire que l'entreprise de dédiabolisation de Marine Le Pen, qu'elle entreprend et qu'elle avait annoncé quand elle a pris la place de son père, ne donne pas des résultats d'implantation locale. Mais ça ne veut pas dire que pour 2022, elle ne reste pas une candidate extrêmement sérieuse.
Très rapidement, puisqu'on fait tout le spectre politique, il y a une défaite dont on n'a pas parlé, qui est un peu passée sous le tapis, c'est celle de la France Insoumise qui a littéralement sauté ses municipales et qui n'a aucune grande victoire, Jérôme Jaffray.
Oui, et vous pouvez ajouter que le Parti communiste n'a pas non plus beaucoup de succès.
Il perd
un certain nombre de villes. C'est-à-dire que c'est la gauche écologiste, écolo-socialiste qui progresse, alors qu'une gauche plus radicale échoue. À Amiens, par exemple, le candidat soutenu par François Ruffin échoue très nettement face... Et donc, c'est un échec pour la France insoumise. Mais la France insoumise... Vous savez, les partis, maintenant, beaucoup d'entre eux sont des machines présidentielles, et rien que des machines présidentielles. La République En Marche, la France insoumise, le Rassemblement National, complètement déconnectés de la démocratie locale. C'est un des problèmes politiques français.